L'écho des gnous, votre guide dans le monde libre. Sur Radio Campus 106.6, le libre n'est pas une jungle. Le libre n'est pas une jungle contre le logiciel privateur.
Bonjour et bienvenue dans le 253e numéro de l'écho des gnous, l'émission qui vous explique l'informatique libre. Alors Pierre a fait une petite mimique que vous n'entendez pas à l'antenne, c'est que très récemment, il y a 5 minutes, je lui ai rappelé que ça ne faisait pas 10 ans, mais 13 ans que nous animions cette émission. Et...
oui, ça fait long là.
Il a pris, un petit coup de vieux. Cette émission, contrairement à ce qui était annoncé il y a 2 semaines, n'est pas en direct approximatif, mais en vrai direct. Il est donc 19h07, si vous nous écoutez en direct sur Radio Campus 106,6, je vous épargnerai. Le reste, attendez le prochain morceau de musique, sinon si vous voulez mon jingle live complet. On va donc vous présenter en direct l'actualité des 2 semaines écoulées, et on va commencer par des actualités vie privée et sécurité. Là, particulier sécurité. Enfin, sécurité, j'y trouve. Ouais, la première, on est à la frontière.
Bah ouais,
puisque, vous savez, il faut protéger les internautes des vilains pédophiles, des vilains terroristes. Bon, ce qui est vrai, il faut protéger la société. Mais pour cela, donc, les gouvernements de près tous les pays, et la France est plutôt zélée en ce domaine, proposons des mesures de flicage et des mesures de blocage sans requérir un site. On avait prévenu que ça pouvait mener à des accidents et des blocages disproportionnés. C'est arrivé en France, puisque donc, toutes les URL du raccourcisseur, donc du logiciel Telegram,
qui est un logiciel de
chat, un logiciel de messagerie, ont donc été pendant quelques heures par tous les faillis français. Redirigé vers une page vous disant que vous tentiez d'accéder à un contenu pédopornographique, quelle que soit l'URL que vous tapiez. Donc c'était en premier, je l'ai vu passer en premier, donc c'était sur Twitter, et ensuite donc il y a eu des articles un peu plus précis sur le sujet. Donc c'était Benjamin Sontag donc qui l'avait signalé. Donc il avait testé sur SFR et Orange, et donc il avait vu qu'il y a une page qui disait que donc, vous avez été redirigé vers cette page du site du ministère de l'Intérieur, car vous avez tenté de vous connecter à un site comportant des images de pornographie enfantine.
Mais si avec ça comme problème, ça serait pas encore suffisant.
Donc, voilà, donc déjà, il y a un blocage
abusif. Trop large.
Donc il y a un signalement de la police au FAI, donc a priori via la cellule Pharos. C'est que non seulement donc il y a une censure inacceptable, c'est qu'en plus, les IP des personnes qui sont arrivées sur ce site sont donc enregistrées, ce qui crée un fichier parallèle de potentiels pédophiles, alors que là, on va ficher des gens qui n'ont absolument rien à faire avec ça.
Exactement. Mais c'est même pas encore tout. Il y en a une autre qui t'as peut-être pas vu. C'est discret comme problème. Mais oui, vous êtes arrivé sur la page du site du ministère de l'Intérieur. Oui, mais ça enregistre les données. Effectivement, comme tu l'as dit, ça les enregistre auprès d'un organisme, on va dire, de collecte de statistiques sur les pages web. Le service, c'est AT Internet, qui est hébergé
aux États-Unis, chez
Amazon aux
oui.
États-Unis. Donc, alors, on devrait peut-être parler un petit peu des fois de souveraineté numérique. Donc là, on est en plein dedans. Et accessoirement, le respect du RGPD et le fait qu'il n'y ait pas d'accord pour envoyer automatiquement les données aux États-Unis. Le respect de la loi, on va dire, chez le ministère de l'Intérieur, apparemment, c'est pas bien compris pour l'instant.
Alors la technique utilisée est assez simple, hein, le DNS menteur, c'est qu'on demande aux fournisseurs d'accès qui fournissent donc un serveur DNS à leurs abonnés de remplacer pour ce nom de domaine-là la redirection vers le bon serveur, vers la bonne adresse IP, vers une adresse IP du ministère de l'Intérieur qui se charge d'intercepter la requête et d'envoyer cette page. D'où la nécessité également d'utiliser des DNS alternatifs,
oui,
dont notamment ceux de la Quadrature du Net, on peut citer,
Ou de la FDN.
De la FDN, pardon, je peux plutôt dire la FDN, ou Google, bon, qui peut avoir tous ses défauts, mais bon, vous pouvez l'avoir en failback. On ne sait jamais s'il y en a un qui en secondaire, au cas où celui de la FDN. Bon, concernant Internet, on n'est jamais trop redondant, on va dire.
Ouais.
Donc, on avait prévenu, et là, a priori, c'est une erreur.
Non.
Ah, disons que le surblocage de Telegram, à mon avis, était une erreur, oui, mais c'est ça peut erreur, être de manière... C'est... Voilà, pour le coup, il n'y avait pas visiblement de volonté de la police nationale, du ministère de l'Intérieur, de bloquer tout lien Telegram. Par contre, si le contexte sécuritaire et politique venait à se durcir,
ce qui pourrait arriver avec un autre gouvernement,
ou avec ce même gouvernement qui est quand même sur la pente, ça pourrait arriver. Autre nouvelle, sécurité et vie privée. Des amendes sont donc prononcées par la CNIL. Notamment, on avait parlé du cas de Clearview il y a quelques mois désormais, donc, qui avait écopé d'une amende de 20 millions d'euros. Le problème, c'est qu'ils refusent de payer.
Ils répondent même pas. En fait.
Oui, ils refusent.
C'est encore pire. C'est même pas, ils disent pas non, on va pas payer, c'est silence radio. C'est magnifique. Qu'est-ce que tu veux faire, effectivement, c'est...
Et comme c'est une entreprise américaine de droit américain, ça va être compliqué d'aller leur envoyer les huissiers ou de faire des saisies sur des comptes en banque.
Voilà.
Donc là, actuellement, des solutions, il n'y en a pas. Clairement, ils font appel à une instance américaine tout de même en disant « Pouvez demander à votre entreprise de payer, enfin votre entreprise, l'entreprise de votre pays de payer. » Sauf que il n'y a pas spécialement de grand espoir de récupérer les sous. Pierre, je te lance le jingle.
Oh oui, bien sûr, le jingle, ça faisait tellement longtemps.
Ça faisait tellement longtemps. Car ça faisait quelques temps désormais qu'il n'y avait pas eu de point Hadopi. Et ce point Hadopi nous est offert par la Cour de justice de l'Union européenne et surtout par la Quadrature du Net, qui avait donc l'année dernière attaqué le principe de collecte systématique des adresses IP par la Hadopi. L'avocat général auprès de la Cour de justice de l'Union européenne de Luxembourg avait... abondé dans le sens de la quadrature en disant qu'il fallait que ce soit des infractions graves, des soupçons d'infractions graves qui permettent la collecte de données personnelles, sauf qu'il avait nuancé en disant que pour la DOPI, on pouvait faire une exception. Donc, une audience s'est tenue donc, le 15 mai, donc c'était lundi. Donc, l'avocat de la Quadrature du Net a rappelé donc que l'adresse IP était une donnée privée, que la collecte d'adresse IP pouvait mener à l'obtention de données personnelles. Et à peu près, pas dire tous les pays, mais bon, la France, suivie du Danemark, et également d'un pays balte, je crois que c'était la Lettonie, ont donc tous argué, le Portugal aussi, ont argué que oui, c'était nécessaire. Et... surtout que la lutte pour le droit de propriété et le droit de propriété intellectuelle justifiait des atteintes au droit à la vie privée. On voit quand même la hiérarchie des valeurs. Donc, réponse dans quelques mois avec le nouveau... l'avocat général doit s'exprimer à nouveau.
À suivre. Je crois que la réponse définitive, c'est vers septembre ou octobre, je ne sais plus. Bon, enfin,
c'était l'Estonie, le pays balte, c'était l'Estonie.
On va se marrer encore avec ça. On va bien avoir des sujets encore à bord de toi.
Merci à la Quadrature du Net pour son travail donc, et pour son compte-rendu de l'audience. Alors, on l'a vu que sur Twitter. Moi, j'ai vu le live sur Twitter. Attendez également à avoir une synthèse sur votre site internet. Alors, conclusion de l'avocat général, le 28 septembre prochain. Donc, voilà. On ne vous manquera pas. Ce sera la reprise de la saison, de la 14e saison, je crois.
Bah, À peu près.
À peu près, hein, de l'écho des gnous, et on vous fera part donc des nouvelles avancées de l'histoire. Pierre, Doctolib perd des données, mais c'est pas grave.
Ouais, c'est pas grave.
C'est pas grave.
Voilà, donc on peut passer à l'actualité suivante. Non, Doctolib, alors ça c'est vraiment une petite brève, mais je trouve que Doctolib, c'est une entreprise dont j'aime les méthodes et le sérieux.
Et le problème, c'est qu'ils sont devenus un acteur quasi incontournable.
Surtout grâce à la
certains des médecins où c'est compliqué de prendre rendez-vous par téléphone.
Oui.
Il faut passer par Doctolib. La vaccination, c'était pas la vaccination contre le Covid.
Mais la vaccination, c'était l'État qui disait regardez, passez par Doctolib.
Non, c'était pas le seul site, mais c'était quand même le portail principal.
C'était le ministre de la Santé qui incitait à aller sur Doctolib. Attention, c'était vraiment.
C'était pas le seul acteur.
Non.
Comme nuance.
Non, mais le ministre de la Santé, il ne donnait que ce nom-là. Attention. Et donc, Doctolib, qu'est-ce qu'ils ont fait les canaillous? Ils ont envoyé un petit mail à un ensemble de médecins pour leur dire on a perdu les informations que vous avez enregistrées dans vos consultations entre le mercredi 26 avril à 17h40 et le jeudi 27 avril à 11h40.
Ce sont juste des données médicales. Mais,
les informations ont été perdues, mais aucune n'a été divulguée à qui que ce soit. C'est seulement les champs textes concernés n'ont pas été enregistrés. Donc voilà, c'est pas grave. Et donc le service juridique de Doctolib dit d'ailleurs que ils n'ont pas déclaré d'incident à la CNIL, ils ont pas divulgué de données, ils ont juste perdu des données. Alors l'un des docteurs qui a reçu le message en question n'est pas d'accord et a fait une déclaration à la CNIL de son côté. Et quand on regarde les textes de loi, ça reste une violation du RGPD parce que c'est la perte de données à caractère personnel. Et donc, c'est à déclarer comme une divulgation de données, c'est la même chose. Donc, à suivre, on va voir si. Après, je pense qu'ils vont juste prendre une petite tape sur les doigts s'il y a une suite là-dedans. Mais je. Voilà, ça fait toujours plaisir de les voir faire des conneries comme ça, eux. Et surtout, ils s'en sortent à chaque fois.
On va donner des nouvelles de Microsoft et de Google après un premier morceau de musique. Nous allons écouter Tab, Sac et Bombe. Vous écoutez l'écho des gnous sur Radio Campus 106,6, la radio numérique terrestre et campuslille.com.
Call it a charade. Pay the tax, cut me slack, let me crash. Give me stacks, give me something I can dive in. Take the loss, take a fast, blow it off, burn it back. Give me something I can hide in. Drinks are getting stronger when the nights are getting longer.
Get lost.
c'était Tab Sac et Bombe. Vous écoutez l'écho des Gnous sur Radio Campus en 6,6, la radio numérique terrestre, et campusil.com. C'est la deuxième partie des actualités. On va continuer sur la sécurité et de la vie privée avec une nouvelle qui, moi, m'a assez amusé. C'est que Google pousse à l'adoption de deux nouveaux donc, noms de domaine. On était allé des noms de domaine de premier niveau comme le .fr, le .com, le .org. C'est le .zip et le .move.
M-O-V.
Alors, le point mauve, les plus jeunes d'entre vous connaissent peut-être pas, surtout s'ils n'utilisent pas de Mac, mais le point zip, tout le monde connaît, ce sont des extensions de fichiers. Donc, le zip pour les archives, le point mauve pour des fichiers multimédia. Alors, c'était utilisé un peu partout il y a une vingtaine d'années, 20, 25 ans. Maintenant, je pense que ça concerne que les utilisateurs de Mac. Sauf que d'un point de vue bas de la sécurité, eh ben, ça peut porter à confusion.
Oui, c'est de ce point de vue-là. Puis ne serait-ce aussi que pour la lisibilité, la clarté.
Donc, a priori, un point zip, ça ne va pas servir à grand monde.
Bah,
je ne vois pas spécialement l'intérêt de faire un site en point zip. Par contre,
attends.
Les scammers qui vont s'en donner encore joie.
Voilà, alors...
Mais l'intérêt légitime, je l'imagine mal.
Actuellement, il y a dans les dans les 2500 à 3000 noms de domaine enregistrés sur le point zip. Parce que c'est pas Google veut le faire, c'est Google l'a fait. C'est bon, c'est parti. Et donc sur cet ensemble, il y a plus de la moitié, ce sont des domaines parqués. Donc ça va être des gens qui vont acheter par exemple wikipedia.zip ou ce genre de choses pour dire Ah, vous voulez le prendre finalement ? Ben, ce sera 10 fois le prix.
Ouais. Le bon vieux cyber-squatting des familles.
C'est ça. Il y en a 25%, c'est des non classés. Et après, le reste, il y a du troll, il y a des erreurs. Et il y aura aussi du malveillant dans le lot. Et il y a du... on ne sait pas trop ce que c'est. Donc c'est bien. C'est une bonne idée, ça. C'est vraiment une bonne idée d'avoir lancé ça. Surtout que, après, lorsque vous êtes tapé dans un message radiocampuslille.com, automatiquement, c'est traduit en disant Ah, radiocampuslille.com, c'est le nom de domaine. Donc, je transformais ça en lien directement pour aller sur le site. Pratique. Maintenant, comment ça pourrait marcher avec machin.zip? C'est pas un nom de domaine, c'est un nom de fichier. Ça devient compliqué. Et ça crée des confusions entre. C'est ridicule.
Des fichiers .com.
Tout à fait.
C'est vieux.
C'est extrêmement vieux. C'est très vieux. Attention.
Là, si vous recevez un fichier .com, vous avez un émulateur DOS.
Ça ne s'exécutera plus sur les Windows récents, normalement. Les Windows 64 bits n'ont même plus d'émulateur DOS intégré. La NTVDM a été retirée dans les versions 64 bits. Donc, pourquoi est-ce qu'ils ont créé ça? Je comprends pas. Je vois pas l'intérêt. Et le point mauve, oui, ça correspond à QuickTime. On en parlait hors antenne. QuickTime, donc...
Qui vit toujours.
Qui vit toujours, mais uniquement sur Mac maintenant. QuickTime for Windows a été déprécié il y a fort longtemps. Et je ne sais pas ce qui est devenu... Je sais pas quel est l'usage qu'on a fait sous Mac parce que je n'utilise pas cette plateforme.
Mais... Bon, c'est peut-être le lecteur multimédia par défaut de...
Peut-être, oui. Apple.
On vous laissera vérifier. Autre nouvelle concernant Google, Google Bard, donc le client de conversation avec une intelligence artificielle, donc l'équivalent de stupidité humaine, ne sera pas disponible dans les pays de l'Union européenne et au Canada.
Alors, attention, petite erreur de traduction de ta part sur le titre. N'est pas. La nuance est subtile. Bard est déjà disponible dans 180 pays. C'est 180 pays, c'est vraiment... Il y a l'Afrique, il y a toute l'Afrique, il y a la plupart des pays d'Asie, il y a les pays d'Amérique du Sud, les États-Unis. Mais pourquoi diable ne pas avoir inclus le Canada et l'Europe?
Peut-être parce qu'ils ont une législation protégeant la vie privée et les données.
Ben ça, dis donc. Oh non.
Non.
Voilà, tu vois, à chaque fois, on le répète, c'est des législations qui nuisent à l'innovation. Hein? Regarde, du coup, des services innovants comme Google Bard ne peuvent pas être mis à disposition, en plus gratuitement, des utilisateurs en Europe. Quelle indignité. Alors, pour ma part, hein, je considère que si grâce au RGPD, on n'a pas ce genre de conneries qui arrivent chez nous, c'est une bonne nouvelle. Ces services-là n'apportent rien aujourd'hui, à part de la confusion, parce qu'on va se mettre à croire les conneries que ça va inventer.
Vous savez... Vous savez, je vous vois maintenant, Pierre. C'est une émission sérieuse. Non, je plaisante.
On va éviter.
Qu'on regarde les commentaires sur certains réseaux sociaux, même si c'est généré par des vrais humains, certains ont quand même tendance à croire des conneries.
Certes.
Écrites par des vraies personnes derrière. Tu me diras, ça rajoutera encore au bazar ambiant. On était sur Google, maintenant on passe sur Microsoft, et donc Microsoft qui prévoit de faire de la pub pour ses propres produits, dont les écrans de paramètres de Windows.
Exactement, on en parlait il y a deux semaines, on parlait du menu démarrer, je crois, je ne sais plus à quel endroit ils voulaient mettre, et ben voilà, maintenant, là, ils ont dit, désormais, dans la page de paramètres de Windows 11, et ben, vous allez avoir de la publicité pour dire, essayez Microsoft 365, essayez gratuitement... Avec dedans, vous avez tous les outils que vous aimez, Word, Excel, PowerPoint, machin, tout ça. C'est pas une blague, hein. C'est vraiment, c'est inclus, et c'est pas un petit bandeau, c'est lorsque vous ouvrez la page et qu'il y a tout un espace de libre, et ben on le remplit avec de la publicité pour ça. Je trouve ça fantastique.
Bon, ils avaient fait déjà de la pub pour puis les mises à jour de Windows 11... Sous Windows 10,
non ? Oui, mais déjà attention...
C'est de la réitération, déjà.
Non, la publicité... Pourtant,
il y a une nuance.
Non, il y a une nuance. Quand un éditeur logiciel te dit « on vient de faire une mise à jour, vous pouvez l'appliquer, votre machine est compatible, faites-le, et en plus, elle est gratuite pour le moment. » C'est pas le même comportement que de dire « regardez, on a aussi ça comme produit dans notre catalogue, et on est sûr que ça va vous plaire, et cliquez ici pour l'essayer gratuitement. » Je suis désolé, il y a une nuance majeure.
Je suis d'accord, Pierre.
En plus, c'est essayer gratuitement, c'est pas essayer gratuitement en shareware et puis après vous devrez payer une licence. Non, c'est essayer gratuitement pour des offres cloud, donc sur des trucs avec des abonnements. Donc
après,
essayer gratuitement
vos
et après ça
donner coûte... sur ce service et si vous voulez continuer à les utiliser,
voilà,
il va falloir payer.
Venez, la prison est gratuite pour le moment.
La première dose est gratuite, c'est toujours pareil.
Exactement. Donc il y a une grosse différence effectivement.
Il va falloir, Pierre, un an à Microsoft pour corriger le bug utilisé par Black Lotus.
Tout à fait. On en parlait un petit peu il y a deux semaines de la sécurité autour de Secure Boot. Et là, on a un autre exemple de... oh, la boulette. Donc, il y a eu une faille de sécurité chez Microsoft. Il y a eu une faille de sécurité sur...
Ça arrive. Ça arrive pas qu'à Microsoft, d'ailleurs.
Ça arrive à tout le monde.
Mais ça arrive pas que...
Sauf que la faille de sécurité en question a concerné l'un des composants de démarrage de Windows. Et donc, elle permettait de contourner Secure Boot. La sécurité qui fait que, l'ordinateur, je l'ai expliqué plus en détail il y a deux semaines, l'ordinateur garantit que le système que vous démarrez n'a pas été altéré, de préférence par un virus ou autre saloperie. Et donc, Microsoft a constaté cette faille et il va leur falloir au moins un an pour que la faille soit corrigée. Non pas que le bug qui a été trouvé est difficile à corriger, le bug initial a été corrigé. Mais le problème, c'est que pour corriger, si du jour au lendemain ils disaient « Ok, on applique le correctif à tout le monde et puis c'est marre », eh ben, il y a des millions de machines qui se retrouveraient à ne plus pouvoir démarrer. Parce que ils doivent révoquer les anciennes clés. Et là, on se retrouve avec le genre de problème que pose Secure Boot. On ne peut pas faire une sécurité comme ça, en fait. On ne peut pas faire une sécurité uniquement en disant à l'utilisateur « Ne vous inquiétez pas, on s'occupe de tout pour vous. » C'est pas possible, en fait. C'est le cœur du problème, il est là. On veut faire un système entièrement automatique, mais on n'a pas le choix parce que ça reste quand même l'utilisateur qui possède la machine et qui sait quel logiciel il veut démarrer dessus. Donc la sécurité de Secure Boot, par défaut, elle ne marche pas puisque ça revient à dire à l'utilisateur « On s'occupe de tout pour vous. Bon, on change les clés en cours de route et puis voilà. » En fait, l'utilisateur, il faudrait juste qu'il soit au courant qu'on puisse lui dire, eh ben écoutez, il y a une nouvelle clé qui est nécessaire, ok. Et on va devoir révoquer l'ancienne. Donc si vous essayez d'utiliser des vieux systèmes, vous aurez un avertissement ou ce genre de choses. Là, il n'y a rien de tout ça. On est sur un truc, il faut que ce soit automatique, il faut cacher les problèmes aux gens. Ben voilà. Voilà ce qu'on obtient. On obtient un an de problème de sécurité pour tout le monde, du coup. Hein, c'est offert, c'est cadeau. Moi, je trouve que c'est un beau compromis, la sécurité, là, comme ça.
Ça rend bien. C'était vendu pour mieux sécuriser les systèmes.
Ben, c'est vendu pour mieux sécuriser les systèmes, surtout en faveur de Microsoft. Ouais. Et ben, on voit les conséquences.
Ouais. Et du coup, première faille de sécurité, il n'y en a plus pendant un an.
Ben voilà. C'est con.
Encore quelques nouvelles sécurité vie privée et 75% des sanctions qui sont adressées par l'équivalent irlandais de la CNIL, donc la DPC, sont retoquées par le CEPD contre 0 à 2% pour les autres CNIL. Alors, la CNIL irlandaise serait un petit peu plus laxiste envers les entreprises américaines qui auraient leur filiale en Irlande.
Alors, évidemment, c'est celles qui ont leur filiale en Irlande, puisque c'est le principe du guichet unique pour les entreprises. Une entreprise n'a pas à agir, n'a pas à travailler, enfin, à se référer à toutes les CNIL européennes. Elle se réfère uniquement à la CNIL du pays où se trouve la maison mère européenne, je crois, quelque chose comme ça. Et donc, en l'occurrence, l'Irlande qui possède un taux d'impôt sur les sociétés avantageux pour les sociétés américaines. Alors, petit tacle au passage, donc les autres CNIL ont entre 0 et 2% de rejet. En fait, c'est pas vrai, les autres CNIL ont toutes 0%, sauf la CNIL française Cocorico avec 2% de rejet. Bon, c'est pas très grave. Enfin, je suis pas allé creuser les détails.
Faut qu'on se distingue dans ce pays.
Voilà, faut qu'on se distingue. Mais voilà, c'est. En fait, ce qui est reproché, c'est que la DPC, donc la CNIL irlandaise, fait de recours massivement à des accords à l'amiable avec les entreprises et avec, du coup, des sanctions, des amendes qui sont extrêmement faibles, comparativement faibles, en utilisant les termes consacrés, comparés à ceux des autres régulateurs européens, à tel point que les décisions sont invalidées parce que ce n'est pas assez. Les sanctions ne sont pas appropriées. C'est ce qui s'est passé déjà avec Facebook, je crois, on en avait parlé. Je sais plus lequel c'était où on en avait parlé, où la CNIL irlandaise s'était fait retoquer pour avoir infligé une amende clairement insuffisante.
Je sais qu'on en avait parlé, mais c'était il y a 2-3 émissions. Mais alors probablement Facebook.
Il y en a tellement qui passent, de toute façon, vu qu'ils vont tous là-bas.
C'est vrai qu'on retient toutes les nouvelles qu'on vous raconte.
Accessoirement, la DPC a longtemps subi un gros sous-investissement. Alors, maintenant, ça s'est un peu corrigé, hein, ils ont un peu plus d'argent qui a été investi, mais ce qu'il y a de triste, c'est que c'est quand même la DPC, ça devrait être la plus grosse, puisque c'est là où il y a toutes les grosses entreprises américaines qui passent. Donc il faut qu'ils aient les moyens d'agir, mais ils se les donnent même pas.
Peut-être que le gouvernement n'a pas envie de les donner.
Voilà, c'est peut-être un peu ça le problème.
Il y aurait peut-être, peut-être on s'avance un peu, il y aurait du chantage, du lobbying des entreprises américaines.
Non, c'est pas le genre.
Des géants du numérique américains qui pourraient faire des pressions amicales envers le gouvernement irlandais.
Ouais, mais tout est dans le amical.
Très, très amical. On a pas mal parlé de régression concernant la vie privée, enfin la législation sur la vie privée. On peut quand même noter une petite éclaircie. C'est à propos donc de l'IA Act, donc qui est actuellement en cours de discussion au Parlement européen. Les comités parlementaires ont donc ajouté l'interdiction de la reconnaissance faciale et de la police prédictive dans le texte.
Et de la notation sociale.
Et de la notation sociale.
Quand même, faut pas l'oublier celui-là.
Bon, la notation sociale, on n'avait pas encore trop de menaces pour le moment. Autant la reconnaissance faciale, il y avait quand même des expérimentations à Nice, notamment à Christian Estrosi. C'est dans la législation pour les JO 2024. Donc là, la menace, elle est quand même beaucoup plus immédiate.
Tout à fait. Alors, pour ma part, tout ce qui est police prédictive et notation sociale, ça m'inquiétait encore plus que la reconnaissance faciale, en fait.
C'est et dire que ça sert quand même pour le moment de tabou. C'est-à-dire, c'est un petit peu... À chaque fois qu'il y a des textes sur le sujet, on met quand même en avant la notation sociale chinoise pour prévenir les excès. Pour le moment, ça sert de repoussoir. Pour le moment.
Pour le moment. Jusqu'à quand? Puisque là, je pense que si on avait
dit...
Je pense que si il y a 20 ans, on avait dit aux hommes politiques, oui, on va installer des caméras avec la reconnaissance faciale pour tracer les gens, pour savoir où vont les gens. Je pense qu'il y en a beaucoup qui, aujourd'hui, sont en faveur de ces caméras-là, qui s'y seraient opposés.
Non, je suis sûr que Charles Pasqua, il aurait été très enthousiaste.
Oui, évidemment. Évidemment. Mais voilà, la dérive sécuritaire, ça fait...
Ok, je vais parler les morts. Bon, écoutez, les gaullistes, ils font parler de Gaulle. Nous, on fait parler Pasqua.
C'est ça. Ça fait depuis 13 ans qu'on parle à longueur d'émission, on parle de la dérive sécuritaire au fur et à mesure. Il y a 13 ans, ça aurait été inimaginable pour nous que des caméras avec reconnaissance des visages soient déployées. Maintenant, ça a été déjà déployé à Nice.
Donc, ces mesures d'interdiction sont donc présente dans le texte qui sera donc proposé au vote au Parlement européen. Alors, il faut que l'ensemble du Parlement européen le vote. Et bien évidemment, on vous tiendra au courant. Pierre, le service juridique du Conseil européen estime que le projet de surveillance des messageries est probablement illégal.
Étonnant, non ? Ah ben ça alors. Alors, donc, on parlait de ce projet de loi, on a déjà parlé à plusieurs reprises dans cette émission. Donc c'est un projet de surveillance des messageries chiffrées, donc afin de lutter, comme toujours, contre les vilains pédocriminels. Hein, c'est merci les boucs émissaires, très pratique. Et donc le but, c'était d'imposer tous les acteurs à mettre en place des backdoors pour que l'État, mais seul l'État, seuls les États et les services de police, évidemment, hein, personne d'autre, qui d'autre de toute façon chercherait à accéder à ces données. Pourrait donc, l'État aurait une porte dérobée pour accéder aux données des messageries chiffrées. Évidemment, ça pose beaucoup de problèmes. Et là, le service juridique du Conseil de l'Europe a adressé à Infopol, alors, moi, au bout d'un moment, il y a trop d'acronymes et d'abréviations, donc je ne sais plus lesquels c'est, mais grosso modo, ils ont dit la lutte contre la pédocriminalité n'est pas n'a pas pour but de sauvegarder la sécurité nationale. C'est effectivement la Cour de justice
nécessaire.
Et la Cour de justice de l'Union européenne a jugé que la surveillance des métadonnées de communication n'était proportionnée que dans le but de sauvegarder la sécurité nationale. Donc, un filtrage similaire du contenu des communications ne peut pas être jugé proportionné. Et encore moins en ce qui concerne les comportements n'étant pas des infractions pénales. Donc, effectivement, ça pose problème. Cette solution, en plus, ça implique un profilage de masse. Donc, là aussi, il y a un problème. Et ça violerait le secret de la correspondance. Voilà.
Bon, ça, le secret de la correspondance, à chaque fois, on prévient. Hein, ça n'a pas l'air de les déranger tant que ça. On parle sortie logiciel libre de manière générale après un... Deuxième morceau de musique. Nous allons écouter Tom Orlando, Out of My Head. Vous écoutez l'écho des gnous sur Radio Campus en 6,6, la radio numérique terrestre et campuslibre.com.
You got me lost in your eyes. I truly think you're the prize, and I can't believe I found you. I think I'm in love. Let's run away and be together. I never miss the one who swept me on my feet. Looking back, I think it's funny how it came to be. I truly cherish all the memories we made in 3 days, with your smile and that perfect body begging you to say that you want me. Our situation's kinda complex, and that's what makes it the best. I want you more than the rest, and I will treat you how you deserve. You be the queen of my world, I'll be the one to lift you up whenever you be feeling down.
Get me out of my head. yeah.
I don't wanna think about a dead end. I'm so scared of
we got when we are so connected, got me in my head, I can barely sleep. Why is life so cruel to me? I just wanna take you to a dinner on a date with me, show you how to live, take you somewhere special, somewhere that you never been. Maybe to the islands, driving in that SUV, singing in the car, nightlife, karaoke in the club. For the first time you got me feeling buzz, I'm feeling something different, like a new beginning starting right in front of me. I kinda like it, I'm feeling risky, wanna risk it all and truly fall, praying out to God that I can have it all with you.
Get me out of my head, I don't wanna think about a dead end. I'm so scared of your feelings fading.
C'était Tom Orlando, Out of My Head. Vous écoutez l'Écho des Glous sur Radio Campus en 6,6, la radio numérique terrestre et campusil.com. C'est la troisième partie des actualités. On va parler logiciel libre. On parle progression sur KDE, Plasma 6, Wayland par défaut, HDR et nouveaux réglages initiaux. Pierre, tu es un fan de KDE, tu es un contributeur à KDE, donc on va te laisser présenter ces changements dans KDE.
Oui,
alors... Non, j'ai pas envie. T'as plus envie, finalement.
Non, c'est juste que... Nouveaux réglages initiaux, c'est juste que je savais pas quoi mettre comme nom pour ce que c'est. Là, j'ai traduit...
Ah, tu vas nous expliquer.
J'ai traduit au mieux. Hein. Alors, donc, Plasma 6, on en a parlé, je crois, déjà il y a un mois ou deux de ça. C'est la nouvelle version de KDE qui est en cours de développement. Donc, nouvelle version majeure avec mise à jour de la plupart des composants. Et c'est l'occasion pour eux de faire le ménage, faire ce qu'ils pouvaient pas faire sur une version qui ne casse pas de compatibilité. Et donc... Ben, l'un des objectifs, du coup, ben, c'est utilisation de Wayland par défaut. Alors, nous, c'est le nouveau système de gestion d'interface graphique sous Linux. Alors, le nouveau depuis 15 ans, même peut-être presque plus maintenant. Non, de mémoire, ça doit faire depuis 15 ans à peu près. Mais voilà, c'est extrêmement long de faire ce genre de changement, surtout sur le modèle de fonctionnement des systèmes Linux. Donc ça c'est à suivre, le projet KDE était déjà compatible mais il reste toujours des bugs et des trucs à corriger autour de ça. Donc là leur objectif c'est que ce soit par défaut. Le changement entre guillemets majeur, qui pour moi en tout cas utilisateur de longue date de KDE, voir ce changement là ça va me faire bizarre, c'est que depuis au moins KDE 2.0, c'est la première version de KDE que j'ai utilisée en 2001, donc ça date probablement d'encore avant ce réglage là. Par défaut, c'était un clic pour ouvrir ou un programme, ouvrir un fichier, ce genre de choses. C'était pas le double clic. Désormais, le truc par défaut, ce sera le double clic.
Mais c'est paramétrable.
C'est paramétrable. Par défaut. Et ce sera Et du coup, c'est le réglage initial qui va changer. J'avoue que quand j'ai lu ça, j'ai fait ça va être bizarre quand je vais utiliser un KDE réglé comme ça, parce qu'à ma connaissance, personne ne les règle comme ça, parce que ben, les gens sont pas au courant qu'il y a le réglage. Donc ça va faire un petit choc celui-là. Et sinon, en prenant les autres nouvelles, pour ceux que ça intéresse, parce que le sujet est un peu compliqué, moi ça me dépasse un petit peu, le support du HDR arrive sur KDE, sachant que le HDR, pour l'instant sur les systèmes Linux, effectivement c'est pas trop supporté, c'est la possibilité d'améliorer le rendu des couleurs sur les écrans.
Pour moi c'est surtout utilisé pour les appareils photo des smartphones, le HDR.
Oui, sauf qu'en fait, c'est des questions de rendu des couleurs. Et c'est utile aussi pour afficher des films, ce genre de choses, parce que l'espace de couleur par défaut, donc le RGB qu'on utilise, rend très mal pour certaines couleurs. Et donc, alors, on est obligé de faire des variations.
Je ne suis pas photographe ni graphiste, mais de ce que je connais de réputation du HDR, en tout cas en matière de photographie, ça a tendance à dénaturer les couleurs.
Parce que derrière,
c'est un petit peu, ça dope un peu, ça flatte l'œil, mais c'est plus naturel. En tout cas, moi, c'est ce que j'en ai entendu. On n'est pas graphiste.
Non, ni toi ni moi, donc c'est un peu compliqué comme sujet, mais il y a un intérêt réel, a priori, au niveau de l'affichage d'applications, que ce soit certains jeux vidéo qui utilisent le HDR, ou certains films, certains médias que vous avez avec cette qualité d'image, ça va être plus intéressant parce que ça va mieux s'afficher, avec un écran HDR. Il faut que toute la chaîne soit compatible, évidemment. Ça va mieux exploiter les capacités d'écran pour vous faire des belles images.
Alors, Asahi Linux, non, le nom Asahi, moi, m'évoquait plus une bière japonaise qu'une distribution Linux, mais Pierre connaissait, demande d'arrêter d'utiliser X.org.
Et d'utiliser, du coup, Wayland. Ouais. Ben justement, c'est pour ça que je l'ai glissé, puisqu'on vient de parler de Wayland au niveau de KDE, qui vise à passer sur Wayland par défaut. La même chose pour Asahi Linux. Donc Asahi Linux, c'est une distribution qui n'est pas très connue pour l'instant. Elle est en fait surtout connue des utilisateurs des machines Apple avec les processeurs ARM d'Apple, les M1 et M2, parce que c'est une distribution qui est spécialisée pour le support de ces machines-là. C'est les développeurs qui font le support de ces machines qui ont fait cette distribution pour permettre aux gens de tester leur travail. Et donc ils disent clairement... plus personne ne travaille sur Xorg, ni chez nous, ni ailleurs. Plus personne ne s'en occupe. Il faut arrêter les gens. Faites votre deuil. Vous l'aimiez bien peut-être, mais au bout d'un moment, si on est désolé, il n'y a plus personne qui peut s'en occuper parce que juste le code est trop vieux et trop compliqué. Effectivement, Xorg, c'est du code qui a commencé dans les années 80. Au bout d'un moment, ça devient nécessaire de passer à autre chose.
En parlant d'architecture qui date des années 80, on va parler des X86. Voire même fin des années 70.
Années 70.
C'est le 80-88.
Ouais, c'est ça.
C'était le précurseur.
C'est ça.
Et donc, Intel propose donc de révolutionner l'architecture et donc en supprimant les reliquats de l'architecture 32 bits.
Dis donc, attention, tu sous-estimes la situation actuelle. Petit rappel, quand tu démarres un ordinateur, un PC, tu vas acheter un ordinateur aujourd'hui, n'importe quel PC, avec un processeur Intel ou AMD, tu le branches, tu appuies sur le bouton Power, le processeur démarre dans quel mode ?
Quel mode ? 32 bits, si tu veux dire.
Non, 16 bits.
D'accord.
Ah, voilà.
Effectivement, j'ignorais.
Voilà, ça, on part de
on
très,
des choses dans
très, très loin. Le processeur en fait démarre dans le même mode que ce qui était utilisé sur les machines, sur les PC vendus avec DOS au début des années 80. Il n'y a pas de problème. Votre processeur démarre dans un mode où il est, qui servait à l'époque des Windows 3.0, à l'époque d'OS, même non OS 2, si OS 2, les premières versions étaient 16 bits. Donc c'est un mode complètement obsolète. Et pour des raisons de compatibilité, jusqu'à maintenant, ça a été conservé. Alors là, c'est pour ça, c'est un peu une révolution, c'est pour ça que je me permets d'en parler, parce que c'est assez technique, mais je trouve ça intéressant de voir que, ben, pour la première fois, Intel envisage de casser la compatibilité avec les systèmes DOS et Windows 16 et 32 bits.
C'est-à-dire qu'on ne pourra pas installer Windows 95 sur les nouvelles machines.
Alors, on ne peut déjà plus le faire sur les machines AMD parce qu'il y a des trucs qui ne marchent plus, hein, faut pas déconner. Sur les machines Intel, je crois que c'est non testé.
On va finir par croire que tu as essayé, Pierre.
Non, si... Merde. J'ai pas essayé d'installer directement, monsieur.
L'expérimentation, c'est rien de honteux. C'est quand même la base de notre travail.
J'ai pas essayé d'installer directement. J'ai eu un autre problème lié à ça et c'est comme ça que je suis tombé dessus. Et par contre, moi, ce qui m'amuse beaucoup, et je voudrais juste pointer ça dans l'annonce d'Intel parce que je trouve ça fantastique. Alors, je vais traduire en direct approximatif. Le concept de l'architecture Intel 64 bits est arrivé sans modifier le. Enfin, est arrivé avec la compatibilité avec les processeurs et les applications actuelles, etc. À chaque fois, ils disent bien Intel 64 bits, Intel 64, etc. Parce que Intel n'a toujours pas digéré ce qui s'est passé il y a 20 piges.
C'est que AMD leur a la priorité
c'est ça,
sur
c'est
le
AMD bits. Qui a créé l'architecture 64 bits pour PC. Parce que Intel, à l'époque, rappelons que ce sont toujours des connards et que c'en était déjà des gros à l'époque, Intel à l'époque disait...
Oh, c'était ton gros mot de l'émission, Pierre.
Oh merde, j'ai déjà cramé.
Ouais.
Oh. Donc à l'époque, Intel s'était dit, eh ben, on va diviser le marché, on va dire, ceux qui ont du pognon, ils vont avoir le droit au 64 bits, les ploucs, on leur donne du 32. Et donc, ils avaient sorti des processeurs Itanium hors de prix en 64 bits.
Qui ont fait un flop commercial.
Qui ont fait un flop commercial, notamment parce que c'était hors de prix et que la compatibilité x86 était pourrie. Mais, et c'est AMD qui est venu sur le marché en disant « Nous, on a des processeurs 64 bits, mais qui sont entièrement compatibles avec le 32 bits. Hein, » Et AMD leur a bouffé leur goûter et ils n'ont toujours pas digéré le truc. Vous êtes quand même mauvais joueur au bout d'un moment.
Une dernière news pour cette émission, Code Weavers devient une coopérative.
Tout à fait, je trouve que c'est intéressant de parler de ce genre de changement parce que le libre, c'est pas seulement du code, c'est aussi ça peut être aussi des gestions d'entreprise. Donc Code Weavers, qui est une entreprise qui existe depuis au moins 25 ans, peut-être même 27 ans, je crois. C'est une entreprise qui édite des logiciels et qui vend des services autour de Wine. Donc l'émulation pour lancer des applications Windows sous Linux, principalement.
Wine n'est pas un émulateur.
C'est ça.
C'est dans la définition.
Oui, tout à fait. On n'a pas le temps de tout redétailler ici. Et donc, Code Weavers, donc le patron de Code Weavers a décidé de quitter l'entreprise parce que ben, ça fait 27 ans qu'il travaille, il veut changer. Et il a décidé... Plutôt que de vendre ses parts ou garder ses parts, etc., il a décidé de créer, de passer l'entreprise sous la propriété d'un fonds qui appartient aux salariés, faisant de ce fait de Code Weavers une coopérative. Et dans le monde du logiciel libre, la gouvernance d'entreprise sous forme de coopérative, ben c'est un peu ce qui se rapproche effectivement du fonctionnement de logiciel libre. Donc, je trouve ça toujours intéressant. Tout à fait.
Et pas du logiciel libre qui est sous licence libre, mais qui est
géré par une boîte complètement fermée à la Google ou autre.
Merci Pierre. La dégeekisation, c'est après un troisième morceau de musique. Nous allons écouter Javier Gomez, La Primavera Nuncia Miente. Vous m'excuserez de l'accent espagnol, j'ai fait allemand deuxième langue. Vous écoutez les connexions sur Radio Campus en 6,6, c'est la radio numérique terrestre et campuslille.com.
Yafol. Yafol.
Claro oscuro, mar de dudas, piedras contra un muro. Esto es una locura, te lo juro. Mil pasiones desatadas, bocas que hablan y no dicen nada. Deseo incontrolado en las miradas. Se mueve en el ambiente, la primavera nunca miente. Se mueve en el ambiente, la primavera nunca miente. Se mueve en el ambiente, la primavera nunca miente. Se mueve en el ambiente, la primavera nunca miente. No, no. Delirante, compra y venta, fuego sofocante. Desde el infierno al cielo en un instante. Polvo y festín de cuerpos, calma y viento, flora en el desierto. Menú de alma y carne al descubierto. Desata tu ser y ábrelo de par en par. Deja la sed de cada día escapar. Mira la vida frente a frente. La primavera nunca miente. Se mueve en el ambiente, la primavera nunca miente. Se mueve en el ambiente, la primavera nunca miente. Se mueve en el ambiente, la primavera nunca miente. Se mueve en el ambiente, la primavera nunca miente. Se mueve en el ambiente, la primavera nunca miente. Se mueve en el ambiente, la primavera nunca miente. Se mueve el ambiente.
se mueve.
La primavera sabe
de dónde viene.
Se mueve, se mueve el ambiente,
se mueve.
La primavera sabe
de dónde viene.
Se mueve, ay, el ambiente,
se mueve.
La primavera sabe
de dónde viene.
Hay que ganita,
se mueve el ambiente,
se mueve.
Hay que ganita,
la primavera sabe
de dónde viene.
La primavera es un cambiante,
se mueve el ambiente,
se mueve.
La primavera
es un cambiante,
se mueve el ambiente.
C'était Javier Gómez, La Primavera Nunca Miente, sur l'écho des loups, sur Radio Campus en 6,6, la radio numérique terrestre et campusil.com partout dans le monde. C'est l'heure de la séquence que vous entendez toutes et tous, c'est l'heure de la dégicalisation. Petit jeu de mots, pasqué, passe-moi le passe.
Je sais pas si on doit dire pasqué.
Pasqué,
passe-quoi, je sais pas. Bref.
En tout cas, tu vas nous parler de portefeuille de mots de passe.
Mais c'est... Arrête ! Arrête, justement. Tu vois, tu pars sur des a priori tout de suite. Arrête !
D'accord.
C'est pas ça, le truc. C'est une révolution, mon ami.
Ah.
Pasqui est une révolution poussée par Microsoft, Google et Apple. C'est Apple qui a tiré les premiers.
Les trois mousquetaires.
Voilà. Qui vous veulent que du bien, promis, juré, sur la vie de vos mamans. Alors... De quoi que ça parle? Alors, il y a des articles, notamment c'est passé, y compris dans la presse grand public, hein, de Le Monde notamment, pour parler de Passkey qui vise à remplacer les mots de passe. Donc, tout d'abord, rappel des faits, un mot de passe, qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose que vous, à la base, c'est quelque chose que vous savez, que vous seul savez, et qui permet de savoir que c'est bien vous qui êtes devant la machine.
C'est un outil d'authentification.
Exactement. Ça, c'est un mot de passe, c'est la définition initiale. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'un mot de passe? Pour une personne qui est un minimum raisonnable en sécurité informatique, un mot de passe, c'est une chaîne aléatoire, générée par un ordinateur, stockée par un ordinateur, et qui n'est pas connue de l'humain. Parce que c'est pas possible. Je peux pas retenir 150 millions de mots de passe. C'est
pas vrai. Dans la sécurité, il faut normalement utiliser un mot de passe par service.
Exactement.
Idéalement, des mots de passe qui n'ont rien à voir entre eux. Je Exactement. Parle évidemment dans un monde idéal.
Et c'est pour ça que des technologies sont développées pour essayer de régler ce problème. Et donc, ce qui est appelé passkey par Apple, Microsoft et Google, qui n'est autre que, en fait, un mot marketing pour parler d'authentification FIDO ou WebAuthn, qui sont les vraies technologies derrière. Passkey, qu'est-ce que c'est? Lorsqu'on utilise Passkey, le navigateur web va discuter avec le site web et va générer une clé aléatoire, une clé privée, et échanger avec le site web. Donc le site web connaîtra la clé publique correspondant à la clé privée.
Il génère une clé privée sur le navigateur et il donne la clé publique correspondante au site web.
Et du coup, l'authentification, elle se fait sur... Ben, vous n'avez juste qu'à déverrouiller la clé privée que vous allez déverrouiller de préférence avec de la reconnaissance faciale, de la reconnaissance d'empreinte digitale, un token de sécurité ou autre. Et voilà, c'est tout. Ça aura remplacé le mot de passe. Alors... Déjà, je suis mesquin. Excusez-moi, mais moi, dans mon Firefox, ça fait longtemps que lorsque je saisis un formulaire, je peux mettre générer un mot de passe aléatoire. En termes de sécurité, je suis désolé, on se pose à peu près au même niveau là. C'est vraiment. Il n'y a pas tant d'écart que ça entre le mot de passe aléatoire généré et stocké par Firefox, à condition que le portefeuille de mot de passe de Firefox soit protégé par un mot de passe lui-même.
Il faut quand même, évidemment, à la fin, retenir un mot de passe fort.
Un seul mot de passe.
Mais très fort, pour le coup.
Mais
sinon, il donne accès à tous vos mots de passe.
C'est ça. Autre problème avec les solutions comme Passkey ou le système de mots de passe de Firefox, la synchronisation. Et c'est là où on commence à partir sur des sujets vachement, vachement plus rigolos. Pourquoi est-ce que Apple, Microsoft et Google mettent en avant leurs solutions de mots de passe comme ça? Eh bien, parce que la clé là-dedans, c'est la synchronisation. Puisque la clé privée qui est générée dans votre navigateur web, vous ne pouvez pas la retenir. Vous ne pouvez pas savoir que pour aller sur le site linuxfr.org, votre mot de passe, c'est tagazou. Vous le savez pas, votre mot de passe, c'est un blob qui est géré par votre navigateur web. Donc, la clé du problème, c'est la synchronisation. Qu'ont en commun ces trois entreprises ? OneDrive, Google Drive, iCloud.
Oui. Voilà. Un peu moins utilisé, le dernier.
Par les utilisateurs de... Par les gens qui sont au sein de l'écosystème Apple, c'est très utilisé, justement.
Mais enfin, les gens qui sont dans l'écosystème Apple, c'est quand même une minorité.
Oui, mais à partir du moment où tu es dans l'écosystème, hop, t'es enfermé. Et c'est ce que veulent faire ces entreprises. Elles veulent vous inciter à utiliser leurs solutions qui ne sont au final que des gestionnaires de mots de passe 2.0. C'est des nouvelles générations de gestionnaires de mots de passe. Des outils libres comme KeePassX, des outils libres comme le gestionnaire de mots de passe intégré à Firefox qui est suffisant pour la majorité des usages sont largement au même niveau en fait. Là, la vraie sécurité qu'on pourrait avoir avec ces nouvelles méthodes d'authentification, ce serait par exemple utiliser une clé d'authentification et qui doivent être soit branchées physiquement dans l'ordinateur ou scannées par le téléphone portable pour s'authentifier sur un site.
Parce que la limite des portefeuilles de mots de passe qui sont stockés en local, c'est que si vous utilisez une autre machine que la vôtre, vous n'avez plus vos clés.
Sauf que donc le portefeuille de Firefox, il me semble qu'avec Firefox Sync, on peut le synchroniser entre plusieurs machines. Je n'utilise pas ça parce que mes mots de passe, je les associe à même ma machine et c'est tout. Et rien n'interdit non plus de copier le portefeuille de mots de passe qui est dans le cas de KeePassX, c'est un seul fichier à transférer avec vous.
C'est pas forcément la même maîtrise des logiciels du système d'information en fonction du poste sur lequel vous vous connectez.
Exactement.
Ça implique d'avoir tous les droits sur la machine. Et,
parce que tu crois que Passkey, ça va pas poser ce problème. Est-ce que tu crois que tu vas pouvoir t'identifier avec ton compte Apple, Google ou Microsoft sur une machine professionnelle qui va être liée uniquement au compte de ton entreprise ? Ben, tu vas pas pouvoir. Donc le problème, il est exactement le même. Ça résout pas plus de soucis, mais ils ont réussi un magnifique coup marketing en faisant croire que c'était la nouvelle grande solution, alors qu'au final, c'est juste leur implémentation d'un nouveau standard du web.
Merci Pierre. Un petit point sur l'agenda. Mardi 30 mai, comme tous les derniers mardis du mois, vous êtes invité au Café Citoyen par l'association Htinux pour la permanence autour du logiciel libre. Ce sera au Café Citoyen de 20h à 22h. Café Citoyen qui se situe place du Vieux Marché aux Chevaux à Lille, métro République Beaux-Arts. Et vous avez toute une sélection de boissons qui sont bio et issues du commerce équitable. C'était le 253e numéro de l'Écho des Gnous. On se retrouve en direct le dimanche 4 juin de 19h à 20h, toujours sur Radio Campus, campuslille.com, la radio numérique terrestre et 106,6 pour ceux qui sont les derniers briscards de la FM. Notre podcast est également disponible sur le site écodegnoutoucollé.org. Donc vous pourrez trouver l'historique maintenant quasiment des deux dernières saisons. Enfin non, des deux dernières saisons, celle-ci commence à arriver à son terme. On devrait terminer donc la dernière émission, probablement ce sera celle du dimanche de juillet, mais on vous fournira un peu plus d'informations d'ici là. On vous laisse avec Chupa Pimento et dans une semaine, ce sera donc une émission consacrée au jazz qui alterne avec nous. Il ne me reste plus...
T'as fait l'agenda, je pense que...
Je viens de faire l'agenda, Pierre. Café Citoyen, tout ça, machin. C'est pas grave, hein. c'est dimanche.
Fin de semaine. Émission aussi.
T'as dû bosser au moins 3 ou 4 jours cette semaine, donc c'est un peu compliqué, je comprends bien. Donc, dans une semaine, ce sera la deuxième ligne, émission consacrée au jazz. Et il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter
un bon dimanche.
Au revoir à tous.
Bye bye.
Sur Radio Campus 106.6, le libre n'est pas une jungle. Le libre n'est pas une jungle contre le logiciel privateur. L'écho des glous.